Mes bien chers frères, avant de commencer ce sermon, quelques annonces. Tout d'abord, je vous invite le dimanche 15 juillet au prieuré Notre-Dame du Christ-Roi, c'est-à-dire à la Villeneuve, pour la prise d'habit d'Alexandre Billot, novice chez nous depuis un an, une cérémonie d'ordre mineur, et l'ordination au sous-diaconat de frère Marcel Delacroix. C'est une étape importante puisqu'il s'agit du premier des ordres majeurs. C'est l'engagement définitif à partir du sous-diaconat. Le clerc est engagé définitivement au service de l'Église, avec l'obligation du bréviaire et de la chasteté en vue de monter les 2 degrés jusqu'au sacerdoce. Retenez cette journée, inscrivez-vous auprès de, enfin, sur le site que nous puissions nous organiser, faites-le savoir autour de vous. Et la deuxième annonce, je vous ai parlé de l'exercice de la miséricorde la semaine dernière. Tout à fait providentiellement, j'ai été en contact avec le capitaine Abdoul Houssen, capitaine à la retraite de l'armée française, malgache, musulman, qui organise des activités et des camps pour les jeunes en difficulté de la banlieue du 9-3, de la Seine-Saint-Denis. Il obtient des résultats magnifiques, merveilleux. Ce musulman va assez souvent à la messe et sa plus grande fierté, m'a-t-il dit, est d'avoir eu des conversions parmi les gens dont il s'occupe. Je pense que la Providence nous donne là véritablement un apostolat qui sera fructueux des deux côtés, tant pour cet homme qui se donne beaucoup de mal et qui obtient des résultats tout à fait extraordinaires, et de notre côté pour lui apporter le trésor de la foi que, je le sais, ils seront heureux de recevoir. Nous aurons besoin d'aide. Un petit peu d'argent, m'a-t-il dit, mais ça, je ne lui ai rien garanti. Il aimerait avoir de l'encadrement avec des personnes titulaires du BAFA. Nous avons besoin de l'aide de vos prières. Et puis, nous aurons peut-être besoin d'aide matérielle, mais ça, je vous en parlerai en temps utile. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, je vous ai parlé la dernière fois de l'exercice de la miséricorde et je vous ai dit qu'elle consistait à mettre l'Esprit de Dieu dans le monde. C'est ainsi que s'est faite la chrétienté, que Léon XIII définissait comme l'union de la société civile avec l'Église, à l'exemple de l'union du corps avec l'âme. Saint Thomas nous dit que la chrétienté, c'est la pénétration de la vie humaine par les vertus de Dieu et notamment par le Saint-Esprit. Notre Seigneur Jésus-Christ parle des rapports entre le Saint-Esprit et le monde dans sa prière qui est un véritable testament, sa prière après la scène, qu'on appelle sa prière sacerdotale. Il est important de comprendre ce qu'est le monde et ce que le Saint-Esprit attend de nous dans le monde. Tout d'abord, ce qu'est le monde, on peut donner une définition physique du monde. Le monde, ce sont les choses qui nous entourent, les champs, les bois, les prés, les rivières, ce sont les voitures, les téléphones, etc. ce monde-là n'a aucune qualité morale, il est moralement neutre. Et c'est le propre des libéraux, sous prétexte que ce monde n'est pas mauvais, de chercher à nous faire admettre qu'il serait bon. Non, il n'est ni bon ni mauvais dans son être physique. Mais, et ça, les libéraux ne veulent pas le voir et ils cherchent à tout faire pour y échapper, mais dès qu'on entre dans la définition morale du monde, la première chose à admettre, c'est que le monde est blessé. Et lorsque, dans l'Évangile, on parle du monde, on ne parle pas du monde physique, les bois, les prés et les rivières, on parle du monde moral, et on en parle en mal, parce que ce monde a une tendance naturelle vers le mal à cause du péché originel. Or, le monde, ce sont les hommes qui sont dans le monde, et on pourrait dire que ce mal n'est pas multiplié par les hommes, mais qu'il est mis à la puissance d'eux ou à une puissance supérieure, en ce sens que lorsque, par exemple, un homme regarde un film, vous avez deux hommes blessés, vous avez le réalisateur du film qui est blessé par le péché originel, et qui, à travers son film, nécessairement fait plus ou moins passer sa blessure, et vous avez le spectateur qui est blessé, et vous avez deux blessures qui se rencontrent et qui se multiplient. Le troisième état du monde, c'est le monde pénétré par le Saint-Esprit, mais, et on ne l'appelle plus monde, heureusement, parce que sinon on s'y perdrait, on l'appelle la chrétienté. Je vous en dirai deux mots pour terminer. Nos rapports avec le monde, première chose à voir, donc, nous sommes blessés. Vous allez exercer la miséricorde, et ce n'est pas pour rien que la Providence nous fait connaître le capitaine Aboudoul Houssen. Vous allez exercer la miséricorde, un chrétien exerce la miséricorde. Il faut savoir qu'il l'exerce en étant lui, d'abord blessé lui-même, et auprès de gens blessés. Que par conséquent, il va y avoir des mesures à prendre, pas des précautions, plus que cela. Il va falloir mettre une énergie intérieure, divine, qui va permettre, d'une part, à celui qui exerce la miséricorde de ne pas être en danger, d'autre part, d'exercer une influence bénéfique sur ceux vers lesquels il va, et qui, je vous l'ai dit, sont dans la misère. Ça ne se fait pas tout seul. La première chose à voir par rapport à cela, c'est que nous ne sommes pas efficaces par nous-mêmes. Là encore, c'est les libéraux. Là, nous sommes dans un domaine où les libéraux ont tout faussé. Tout, du début à la fin. Nous sommes blessés, nous sommes en rapport avec un monde blessé. Et il y a des situations où nous sommes plus forts que le monde et où nous pouvons exercer notre influence bénéfique. Et il y a des situations où nous sommes faibles à cause de nos blessures. Et à ce moment-là, il est quasiment certain que le monde exercera sur nous son influence maléfique. Il faut donc voir, lorsqu'on exerce la miséricorde, ce qui est à notre portée, moralement, et ce qui ne l'est pas. Bien sûr, il faut ne pas se servir de cela comme prétexte à la paresse pour fuir des apostolats ou des œuvres de miséricorde que Dieu nous confie, dont nous sommes capables, et dont nous voudrions nous estimer incapables pour ne pas à nous donner de mal. Le défaut inverse est tout aussi fréquent, à savoir de ne pas vouloir admettre nos faiblesses, les dangers que nous courons. Et c'est ainsi que j'estime que le mal le plus visible est le moins dangereux, le mal le moins visible est le plus dangereux, le mal le moins attirant est le moins dangereux et le mal le plus attirant est le plus dangereux. Donnons des exemples. Il est certain que pour un bon libéral, enfin pour un catholique ordinaire, un ami libéral, un cousin libéral sont des gens dangereux parce que chez eux, le mal ne se voit pas et en plus, ils sont attirants par leur mode de vie relativement semblable aux catholiques. Et c'est très proche d'un catholique, quelqu'un qui est d'un bon milieu, mais qui est libéral. Et en plus, parce qu'ils apportent aux traditionnalistes un mode de vie qu'il n'a pas complètement et qu'il désire. On a combien de nos jeunes qui ont bavé d'envie devant ce que des cousins libéraux, un peu plus libres qu'eux, un peu plus riches qu'eux, un peu plus que sais-je, possédaient ou pouvaient apporter. Cela, évidemment, va surprendre et peut choquer, mais il y a souvent plus à se méfier de la famille libérale, lorsqu'elle est libérale, des cousins, des oncles, des tantes, que des musulmans dont s'occupe le capitaine Abdul Hussein. Ces musulmans-là ne sont pas dangereux. D'abord parce qu'ils ne sont pas si mal élevés que cela. Deuxièmement, parce que le danger est parfaitement visible et reconnaissable. Troisièmement, parce que leur mode de vie ne fait pas envie à un bon catholique bourgeois. Il y a des dangers qui sont graves à 12 ans, qui ne le sont pas à 18, et inversement. Il y a des fréquentations de jeunes filles qui peuvent être graves à certains âges et pas à d'autres. Je ne vais pas m'étendre, mais il y a là tout un exercice de la vertu de prudence dont nous parlerons lorsque nous arriverons à la vertu de prudence. Tout un exercice de la vertu de prudence pour voir quelles sont les œuvres de miséricorde qui sont à notre portée et celles qui n'y sont pas. Je vous disais, nous n'agissons pas par nous-mêmes. Nous agissons en transmettant l'influence de Dieu au monde. Et cette transmission se fait par la vigueur de notre foi, de notre charité et de nos vertus. Et saint Thomas d'Aquin dit même, de façon encore plus concrète, par la vigueur de notre amour de la croix. Ce qui manque au monde, c'est l'amour de la croix, et ce dont il a besoin, c'est l'amour de la croix, inspiré par le Saint-Esprit, et ce que nous pourrons transmettre, c'est cela, à condition d'en être nous-mêmes profondément convaincus et pénétrés. Ce sont les libéraux qui croient qu'il suffit d'arriver au milieu du monde pour exercer immédiatement une influence. C'est faux. On ne peut exercer de l'influence. Même Dieu n'exerce pas d'influence par sa simple présence. Dieu exerce son influence par son action. Et il ne faut pas croire que la présence d'un traditionnaliste, d'un tradi, comme on dit, suffit à faire de l'apostolat. Nous arrivons justement, du coup, à ce qu'est la chrétienté. La chrétienté, c'est ce qui est pénétré par l'esprit chrétien. Il faut savoir que c'est nous qui la faisons par nos vertus. Et nous la faisons par les vertus opposées aux vices du monde. Or, les trois vices du monde et les trois concupiscences qui définissent le monde, saint Jean nous le dit dans sa première épître, lorsqu'il parle à des jeunes, justement, il dit « Jeunes, faites bien attention, vous êtes plein de vie, mais faites bien attention, vous voulez aller dans le monde, ce qui est normal, ça c'est tout à fait normal, vous voulez aller dans le monde, mais vous ne savez pas ce qu'est le monde. Moi je le sais et je vais vous le dire, le monde n'est que concupiscence des yeux, concupiscence de la chair et orgueil de la vie. concupiscence des yeux, c'est-à-dire désir des biens matériels, de tout ce qui se voit, de tout ce qui peut se posséder. Concupiscence de la chair, c'est évidemment celle du corps qui se révolte contre l'esprit. Et concupiscence de l'orgueil de la vie, c'est l'esprit qui se croit plus qu'il n'est, l'orgueil, vous savez bien ce que c'est, et cela est un début de révolte contre Dieu. Et il faut bien l'admettre, ces trois vices définissent le monde, et Saint Ignace de Loyola nous dit qu'à partir de là, le démon fait tomber dans tous les autres vices, à partir de la concupiscence des yeux, de l'orgueil de la vie, il fait tomber dans la concupiscence de la chair. Dans l'ordre, le premier qui vient, qui engendre les autres, c'est la concupiscence des yeux, qui va engendrer la vanité engendre l'orgueil. Dans l'ordre de la gravité, c'est la concupiscence de l'orgueil de la vie qui vient en premier, qui est beaucoup plus grave que tout le reste. Et dans l'ordre de la honte, c'est la concupiscence de la chair qui est la plus honteuse, mais qui n'est ni la première, parce qu'elle est une conséquence, ni la plus grave et la plus importante. On m'a dit que Jean-Marie Le Pen, dans ses mémoires, raconte, hélas, sa première aventure à 16 ans avec une voisine, et qu'il dit, parce que c'est la réalité, qu'il avait été entraîné non pas tant par la concupiscence de la chair que par le désir désormais d'être un homme. Et ça, c'est la concupiscence de l'orgueil de la vie. À ces vices, nous opposons les qualités inverses. À la concupiscence des yeux, nous opposons la pauvreté. À la concupiscence de la chair, nous opposons la chasteté, et à la concupiscence de l'orgueil, nous opposons l'humilité. Ce qui fait que nous pouvons dire que la chrétienté s'édifie par la pauvreté, la chasteté et l'humilité. Et lorsqu'on veut mener le plus loin possible ces trois vertus, à ce moment-là, on entre dans la vie religieuse, on exerce la pauvreté, la chasteté, et l'humilité prend une forme encore plus parfaite, à savoir l'obéissance totale. Voilà quel est notre programme. Un dernier mot, la chrétienté ne sera jamais parfaite ici-bas, elle ne sera parfaite qu'au ciel. Nous construisons ici-bas la cité céleste, mais nous ne la trouvons que de façon très imparfaite ici-bas. Ne vous découragez pas, mes bien chers frères, ne croyez pas que parce que vous aurez entrepris des œuvres de miséricorde, la face du monde sera changée, d'autant plus qu'il est clair que la crise actuelle a pour but de montrer aux hommes orgueilleux que Dieu est le seul Tout-Puissant, et que c'est lui qui interviendra. Les hommes le recevront ou ne le recevront pas, c'est une autre affaire dont je vous parlerai une autre fois. La chrétienté, c'est l'Église, l'Église présente dans le monde. Ça, c'est très encourageant. Vous tous, mes bien chers frères qui m'écoutez, vous vivez dans le même amour de Dieu, dans la même foi de Dieu, dans le même désir du règne de notre Seigneur. Et rien que cela vous fait vivre dans une société qui est déjà l'Église. Monseigneur Lefebvre disait « Nous sommes l'Église » et c'est de cette manière-là que nous sommes l'Église, en vivant de cette manière que je vous décris, que l'Église me demande de vous enseigner. Demandez à la Très-Sainte Vierge de vous aider, demandez-lui de vous former, comme je vous l'ai déjà dit, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.